jusqu'au 26 mars ont lieu les journées francophones de la schizophrénie, une semaine par année pour rappeler l'existence de certaines maladies psychiques et puis surtout permettre au grand public de mieux les connaître.
Une conférence est donnée demain soir à 19h30 au centre Saint-François de Lémont avec le docteur Yann Audet, directeur médical des SPJBB, service psychiatrique Jura Bernois et Bienne-Seeland. Le titre de cette conférence, schizophrénie ou trouble bipolaire, quelle différence ?
Docteur Yann Audet, bonjour.
Bonjour.
Votre conférence, elle pose une question particulière et précise, la schizophrénie ou trouble bipolaire. Est-ce que pour vous, médecin, la réponse est toujours évidente ?
Pas toujours, mais souvent. Ces deux grandes pathologies psychiatriques considérées comme fréquemment sévères, c'est chacune à peu près 1% de la population. Et ces deux pathologies qui partagent en partie un patrimoine génétique commun. C'est-à-dire que dans les études génétiques, on voit que dans les familles, il y a des gens qui ont des troubles bipolaires, il y a plus facilement des gens qui souffrent de schizophrénie et inversement. Mais pour autant, ces deux pathologies sont quand même assez séparées. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, on voit nettement la différence, mais il y a quelques formes frontières aussi.
Quelles sont les plus grandes difficultés pour vous en tant que médecin ? C'est le dialogue avec le patient au moment où on va y annoncer le diagnostic, le résultat final ?
C'est pas encore ça le plus difficile. Une des difficultés dans la schizophrénie, c'est qu'il y a environ 60% des malades qui ne perçoivent pas leurs troubles. Et on montre que c'est pas un déni, c'est ce qu'on appelle d'un terme un peu compliqué qui est l'anosognosie, c'est-à-dire une non-connaissance du trouble, non-conscience du trouble. Et ça, c'est un petit peu embêtant, parce que du fait que les gens ne perçoivent pas leur trouble, ils ne demandent pas d'aide, ils ne cherchent pas à se faire soigner. Et donc, leur imposer à tout prix un diagnostic, c'est un petit peu difficile dans ce cas-là.
Et ce sont les proches qui, eux, par contre, vont percevoir des troubles et puis vont amener la personne à consulter ?
Alors, les proches perçoivent souvent des troubles, mais la grosse difficulté de la schizophrénie, c'est que le public, on connaît parfois les formes extrêmes avec des hallucinations, des éléments délirants, mais la plupart du temps, la schizophrénie, c'est pas ça. La plupart du temps, c'est un jeune qui reste à la maison, qui fait rien pendant des longues périodes, pendant des mois, qui a un repli social. Alors souvent, les parents pensent que c'est une sorte de crise, mais c'est une crise qui dure. Et on pense que c'est plutôt un trait de caractère. Et donc, on ne va pas consulter. La famille dit, mais quand est-ce qu'il va se mettre à travailler? Quand est-ce qu'il va faire quelque chose? Et puis, des fois, au bout d'un moment, la famille le met dehors ou n'en peut plus, ou la famille a la critique du voisinage ou du reste de la famille proche. Et donc, la famille repère quelque chose qui ne va pas en se disant, mais là, ça ne va pas comme il faut, mais ne repère pas forcément que c'est une pathologie, donc ne demande pas forcément d'aide. Et c'est ça, un des problèmes.
Alors justement, c'est aussi quand même quelque chose de difficile, autant pour la personne atteinte que les proches, de discerner ce qui se passe. On peut aussi le rapprocher à une dépression.
Alors, ça peut ressembler, quelqu'un qui ne fait pas, ça peut ressembler à une dépression. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que dans la schizophrénie, les troubles dépressifs sont beaucoup plus fréquents que dans le reste de la population. Donc on peut avoir tout à fait les deux. Ça, c'est une difficulté. Mais donc c'est le psychiatre qui va poser des questions pour savoir est-ce que c'est juste une dépression. Par exemple, chez l'adulte jeune, il faut souvent penser face à un trouble dépressif, est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie derrière ? Parce que le traitement va changer. Et si on donne que des antidépresseurs, ça ne va pas marcher. Donc il faut demander, il faut consulter. Des fois, ce qui est intéressant, c'est de se rapprocher des associations de familles qui ont un proche qui a de schizophrénie. Parce qu'en discutant avec les membres de l'association, les familles vont vite se rendre compte si ça ressemble ou si ça ne ressemble pas.
Vous, à quel moment vous allez pouvoir précisément diagnostiquer la schizophrénie ? Il y a des tests, il y a quelque chose de très concret qui permet de dire, ce jeune homme ou cette jeune femme, je ne sais plus si ça s'adresse aussi ou s'il y a une proportion égale, est atteinte de schizophrénie.
Alors, il y a, en termes d'imagerie cérébrale, par exemple, on sait qu'il y a des anomalies, mais qu'on ne voit que sur des groupes de patients, parce qu'on sait que la maladie va modifier certaines choses dans le cerveau, mais de façon très légère. On va avoir des réductions un peu de certaines régions du cortex cérébral, la substance grise. On va avoir une légère dilatation des ventricules au centre du cerveau. Mais c'est des variations qui sont très faibles par rapport à la variation naturelle. Donc, sur une personne, on ne voit pas forcément. Un examen médical ne va pas permettre de voir. Le diagnostic, c'est avoir un certain nombre de signes sur une période suffisante. En gros, pour parler de schizophrénie, il faut deux signes sur une série de cinq pendant au moins un mois, donc pas juste quelques jours. Et parmi ces signes, vous avez des hallucinations, c'est-à-dire des perceptions sans objet, la personne entend des voix, a des sortes de, a des visions, sent des odeurs qui n'ont pas de matérialité, premier signe. Deuxième signe, des idées délirantes, c'est des gens qui se font un peu du cinéma dans leur tête, qui sont à un moment donné, qui ont des croyances totalement inadaptées. Troisième signe, c'est une pensée désorganisée, c'est-à-dire que un peu comme quelqu'un qui penserait quand il est un peu ivre, hein, si on la pensée, ou quand on se réveille, ou quand on rêve, une pensée désorganisée. Quatrième signe, c'est un comportement qui est désorganisé, c'est le reflet de cette pensée désorganisée. Et le cinquième signe, qui est le plus fréquent et que souvent les gens ne repèrent pas, ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Les symptômes négatifs, on dit négatifs parce que c'est une sorte de chose qui est en déficit par rapport à un fonctionnement normal. C'est un défaut de l'affluence des idées. Les idées ne viennent pas. La personne dit, c'est pas comme avant, mes idées n'arrivent pas. C'est un émoussement affectif, c'est-à-dire que la personne ne réagit pas comme avant. L'impression qu'elle est un petit peu éteinte, ou l'œil ne brille plus. Hein, quand on dit, c'est bizarre, il n'est pas présent. Et puis l'autre signe aussi, c'est une sorte de, ce qu'on appelle en termes médicaux, une aboulie, c'est-à-dire un manque de volonté. Ça se traduit couramment par une sorte de paresse pathologique. Parce que être paresseux, c'est pas faire les corvées. Mais il y a des gens qui font rien. Et l'être humain, il n'est pas fait pour ne rien faire. Enfin, on ne fait rien temporairement parce qu'on est fatigué. Après une période d'examen, par exemple. Mais ça ne dure pas. Au bout d'un moment, on s'ennuie, on fait des choses. Il y en a qui ne font quasiment rien, qui ont une activité complètement stérile. Donc, deux de ces signes sur ces cinq que j'ai énoncés, pendant au moins un mois, plus une altération nette du fonctionnement social, familial, scolaire, pendant au moins six mois. Ça fait la schizophrénie. C'est juste la définition de ces signes. Après, derrière, il y a des choses différentes. Il y a des évolutions très différentes. Il y a même des gens qui s'en sortent très bien dans cette maladie-là. C'est pas nécessairement une pathologie qui va être grave pour tout le monde.